Chapitre 54. Hélène est dans le coma. Sa bouche et son nez sont dissimulés sous un harnachement complexe de tuyaux reliés à un respirateur artificiel. Sa main et son bras gauche sont perfusés et diverses solutions coulent dans ses veines au goutte à goutte. À cet instant, je voudrais avoir fait médecine pour lui sauver la vie. Rose lui caresse la main. Une femme se tient près d'elle. Elle ne fait pas partie du personnel hospitalier. Elle ne porte pas de blouse. Roman est assis à l'autre bout de la chambre, le regard perdu. Quand j'ai frappé à la porte, c'est lui qui a dit « Entrez ». Rose prononce mon prénom, Justine. La femme me regarde et me sourit. Roman se lève et s'approche de moi pour m'embrasser. C'est la première fois qu'il m'embrasse. Ses joues sont froides. Comme si c'était lui qui arrivait de l'extérieur et non moi. La femme que je ne connais pas s'approche de Roman. Rose m'embrasse à son tour et me dit « C'est si gentil d'être venu. Je croyais que vous étiez en vacances. » Roman ne me laisse pas le temps de répondre. « Justine, je vous présente ma femme, Clotilde. Clotilde, je te présente Justine. C'est la jeune femme dont je t'ai souvent parlé, celle qui s'occupe d'Hélène dans sa maison de retraite. » Clotilde me sourit à nouveau. Je la salue poliment. Pourtant, je rêve de hurler. Mais comment peut-on porter un prénom aussi moche? Elle est exactement comme je l'imaginais. Parfaite de partout. On dirait une publicité pour Grace Kelly. Je m'approche d'Hélène. Je ne la reconnais pas. Si Rose et Roman n'étaient pas là, je me dirais que je me suis trompée de chambre. Ça y est, Hélène est vieille. Elle ressemble aux autres. La vie l'a lâchée. J'approche ma joue de ses cheveux. Je la respire. Pour la première fois, il fait nuit sur sa plage. Il n'y a personne. Ni femme, ni enfant, ni homme, ni serviette. Il ne fait pas froid. L'air est même doux. La mer est calme. Hélène n'attend pas Lucien et la petite, les yeux fixés sur l'horizon ou sur un roman d'amour. Elle s'est endormie. La lune est haute et pleine. Quand je me retourne, Rose, Roman et Clotilde ne sont plus là. Ils ont quitté la chambre, comme tous les habitants de la plage d'Hélène. Nous sommes toutes les deux hors saison. Pour la première fois de ma vie, je me sens seule au monde. Je voudrais mourir à sa place. Je voudrais partir. Voir Lucien, la première. Je sors le cahier bleu de ma poche. Je peux commencer à lire les derniers chapitres à Hélène. Ou peut-être les premiers.
T'as quel âge, mon papa?
Rose lui pose la question en lui tordant le nez. Ça la fait rire. Elle est légère comme une plume. Lucien la serre dans ses bras. Il vient de pleuvoir. Le chemin qui mène à la maison est une immense flaque. Je ne sais pas. Elle met sa petite tête dans son cou. Il sent son souffle sur sa peau. Il lève la tête et observe la valse des oiseaux. Les goélands guettent le retour des chalutiers. Lucien et Rose ont du vent dans les cheveux. Lucien, des trous dans la tête. Des nuages qui peuvent ressembler à des monstres.
T'es triste, papa ?
Lucien tire sur ses yeux en forçant son sourire. Non, j'ai les yeux qui tombent. Il la hisse sur ses épaules. Elle tend ses deux petits bras pour imiter les ailes d'un avion. Il se met à courir jusqu'à la porte de leur maison. Courir, sa fille sur les épaules, le vent dans les narines, l'odeur de la terre qui se mélange aux embruns, la pluie qui pique la peau comme des aiguilles à coudre. C'est bon. Ils n'ont pas pu partir pour l'Amérique. L'administration française ne leur a pas fourni de papier. L'amnésie ne rentre dans aucune case et Lucien Simon n'existe pas assez pour obtenir un passeport. Les rires de Rose le délestent. Il fait le bruit d'un moteur d'avion avec ses lèvres. Pour un peu, il s'envolerait. Quand il pousse la porte, il a un mouvement de recul. À l'intérieur, les matelas des chambres sont retournés et éventrés, les armoires vidées, les casseroles et assiettes renversées. Les sacs de farine et de sucre ont été éparpillés sur le sol de la cuisine. Rose est trop petite pour comprendre ce qu'il s'est passé. Elle répète juste les mots qu'elle a entendus dans la bouche de sa mère. C'est le désordre. Edna se comporte de plus en plus bizarrement. Ses crises de larmes peuvent durer des heures. Il lui arrive de plus en plus souvent de disparaître plusieurs jours de suite. Mais de là à tout saccager dans la maison, ce n'est pas possible. Même les plaintes ont été arrachées. Une heure plus tard, deux gendarmes relèvent des traces de pas, expliquent à Lucien que beaucoup de maisons ont été visitées ces derniers temps. Lucien est mal à l'aise. Il ne saurait dire pourquoi, mais il n'aime pas la présence de ces hommes en uniforme sous son toit. Après leur départ, Rose s'amuse à ramasser les objets sur le sol pour aider son père. Parmi le linge, les conserves et les bouteilles, elle rassemble de vieux journaux pour les mettre dans le poêle. Elle les place sur le tas de bois car elle n'a pas le droit d'ouvrir la porte du poêle toute seule. Lucien fait le ménage, il essuie et balaye. Il aime faire ce geste, enlever la poussière. Il voudrait tant pouvoir faire la poussière de sa tête. Rose monte jouer dans sa chambre. Lucien ouvre la porte du poêle et place quelques bûchettes à l'intérieur. Il prend des feuilles de papier journal, les froisse et s'apprête à gratter une allumette lorsqu'il voit la photographie. Celle d'une forêt de bouleaux. Il défroisse la feuille. Il reconnaît cette photographie. Il la tenait dans sa main quand il est arrivé à la gare. Tout lui revient brusquement. Le dispensaire, la main d'Edna, des feuilles dans une boîte en carton, sa main blessée de les avoir trop serrées, la salle de soins, des pansements, une odeur nauséabonde, le coma. Il les avait oubliées. Où étaient-elles? Pourquoi les retrouve-t-il en Bretagne, chez lui, le jour d'un cambriolage? On frappe à la porte. Il remarque que toutes les feuilles de papier qu'il serrait dans sa main garde l'est sont posées sur le tas de bois, ensemble, réunies. Il les observe, les renifle. Ce sont des journaux étrangers. On refrappe avec insistance. Lucien va ouvrir. Les deux gendarmes encadrent un jeune homme qui porte une casquette et une barbe de quelques jours. Lucien est pris d'un vertige. Il se retient à la porte. Pourquoi est-il si mal face à ces hommes en uniforme? L'un des gendarmes dit « Nous tenons notre voleur ». Mais Lucien ne l'entend pas. Il n'entend plus rien. Il oriente une feuille de journal en direction du jeune homme. « Où l'avez-vous trouvé ?» Un des officiers répond « À proximité de la gare, il tentait de prendre la fuite. »« Ce n'est pas à vous que je parle, » dit Lucien sèchement. « C'est à lui. » Lucien tend toujours la feuille de journal en direction du jeune homme, qui paraît de plus en plus penaud. Lucien est terriblement impressionnant avec sa gueule balafrée et ses yeux pénétrants. « Où avez-vous trouvé ces feuilles ?» insiste-t-il. « C'est pas moi, monsieur. Je suis innocent. » Le deuxième gendarme sort une chaîne en or de sa poche. Lucien reconnaît immédiatement le bijou. La médaille de baptême d'Edna. Le pendentif, une Vierge Marie, fait un mouvement de balancier dans les doigts de l'officier de police. « Reconnaissez-vous cet objet, monsieur? Nous l'avons trouvé sur cet individu. »«
Je l'ai pas volé! C'est ma mère qui me l'a donné !»
Lucien fixe le voleur. Embarrassé, ce dernier se dandine d'un pied sur l'autre, reniflant bruyamment. Cet objet ne m'appartient pas. La réponse de Lucien surprend plus le type à la casquette que les deux brigadiers. Ils insistent tour à tour, mais Lucien maintient sa déclaration. Il n'a jamais vu ce bijou. Il ne lui appartient pas, ni à lui ni à sa compagne.
Justine, on s'en va ?
Pépé est derrière moi. C'est lui qui m'a emmenée aux urgences. Il n'a pas voulu que je conduise, j'étais trop paniquée. Je n'arrêtais pas de crier.
Pourquoi est-ce que son cœur lâche juste au moment où je pars deux jours? Deux jours seulement!
Pourtant, je sais bien que souvent les résidents se rendent malades quand un proche s'absente. Est-ce à cause de moi qu'Hélène est tombée dans le coma? Est-ce que je suis punie d'être allée en Suède fouiller dans le passé d'Annette? D'avoir forcé Magnus à parler? Jules m'a demandé si c'était bien mon petit week-end à Lyon. J'ai dit « Oui, trop bien ». S'il connaissait la vérité, il me tuerait probablement. Pépé est debout derrière moi. Il a enlevé sa casquette. En le voyant ici, dans cette chambre d'hôpital, je pense que cela fait des années que je ne l'ai pas vu ailleurs que dans sa maison ou son jardin. Il a l'air gêné, gauche. Entre nous, le silence, entrecoupé par le bruit des machines.
« Comment va Madame L ?»
me demande-t-il. « Elle est dans le coma. » Il ne dit plus rien. Il fixe Hélène. « Pépé, tu la connais ?»«
Qui ?»«
Hélène, tu la connais ?»«
De vue, peut-être. J'étais petit quand il tenait le bistrot. »
C'est la première fois qu'il répond à une de mes questions avec autant de mots. 11. Sans compter le trait d'union et l'apostrophe. J'ouvre mon cahier bleu et reprends ma lecture comme si Pépé n'était plus là. De toute façon, a-t-il jamais été là ? Lucien retrouve le jeune voleur quelques heures plus tard, devant le comptoir d'un bistrot près du port. Il a l'air perdu dans ses pensées. Quand il relève la tête et qu'il voit Lucien se diriger vers lui, il pense que ce dernier est venu pour lui filer une rouste. Par réflexe, il pose les mains sur la tête pour se protéger des coups que Lucien pourrait lui mettre.
« J'ai rien fait, monsieur. »«
Où avez-vous trouvé ces feuilles de journaux ?» lui demande Lucien.
Le jeune homme recommence à se dandiner d'un pied sur l'autre.
« Mais pourquoi est-ce que ce type s'intéresse tant à ces feuilles de choux alors qu'il a mis la maison à sac ?»
Lucien le fixe. Jamais il ne le lâchera avant de savoir. Il a l'air cinglé avec ses yeux anormalement bleus. On dirait deux ampoules de couleur, comme sur les manèges des fêtes foraines.
Derrière une plainte, dans votre cuisine, j'ai cru que c'était des billets de banque. Une vraie déception.
Lucien marque un temps. Comment vous appelez-vous ? Décidément, ce type est bizarre.
Charles, monsieur.
Lucien le fixe toujours. Le jeune homme fouille alors dans sa poche et en retire la chaîne d'Edna. Il la lui tend, à regret.
Gardez-la, Charles, lui dit Lucien. Pour votre fiancée.
J'ai rien du tout, monsieur. Alors une fiancée, vous imaginez ?
Charles remet tout de même la chaîne dans sa poche.
Enfin, on sait jamais.
Quand Edna rentre du travail, elle étouffe un cri. Simon n'est plus le même homme. On dirait qu'il a grandi tant il s'est redressé. Il est encore plus beau ce soir. Plus beau que ce matin, quand ils se sont dit au revoir, bonne journée.
J'ai trouvé des mots, lui dit Lucien en la regardant droit dans les yeux.
Des mots ? Edna est surprise par le propre son de sa voix, blanche.
Des mots que j'ai écrits sur ces journaux. Pourquoi tu les avais cachés ? Pourquoi ?
Edna va s'asseoir et répond comme pour elle-même. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Il lui tend les feuilles qu'elle n'a pas brûlées, qu'elle aurait dû brûler.
Le braille, tu connais ?
Oui, répond Edna. C'est l'alphabet des non-voyants ?
Je ne sais pas pourquoi, mais je sais le lire. Et je pense que j'ai écrit à quelqu'un.
Quelqu'un ?
Une femme avec un oiseau dans la bouche. Et puis, il y a un endroit aussi. Un café avec une pancarte fermée pour congé.
Tu veux bien me...
Elle trébuche sur les mots, tente de prendre une voix naturelle, mais son cœur bat trop fort.
« Tu veux bien me lire ces phrases ?»
finit-elle par lâcher dans un souffle.
Lucien déplie les feuilles avec soin. Il touche le papier en fermant les yeux et se met à lire à haute voix.
« Mon amour, la première fois que je t'ai embrassée, j'ai senti un battement d'ailes contre ma bouche. » J'ai d'abord cru qu'un oiseau se débattait sous tes lèvres, que ton baiser ne voulait pas du mien. Mais quand ta langue est venue chercher la mienne, l'oiseau s'est mis à jouer avec nos souffles. C'était comme si on se le renvoyait de l'un à l'autre.
Edna ne l'écoute plus. Il l'aimait. Il était amoureux d'elle.
Continuer ? Le ramener là-bas ? Rester ici avec la petite, sans lui ? Attendre demain matin et lui dire la vérité ? En 1946, j'ai reçu un courrier. Quelqu'un te cherche ? Le séparer de sa fille ? Retourner à Milly, parler à Hélène, voir ce qu'elle est devenue. Vivante, morte, remariée, mère et amoureuse d'un autre homme. La tuer et s'enfuir pour vivre à nouveau. Est-ce qu'on vole un homme comme un billet de banque? Est-ce qu'on va en prison quand on enlève la vie d'un homme à une femme? Se suicider. Et dans la lettre qu'elle laisserait, elle écrirait « Hélène L. Café du Père Louis. Place de l'Église. Milly. » Et ma vie à moi, à quelle adresse se trouve-t-elle? Est-ce que je vis? Non. Le laisser vieillir sans jamais rien dire. De toute façon, il est trop tard. La voix de Lucien la sort de sa torpeur. C'est la troisième fois qu'il pose la même question, accroupi devant elle pour être à sa hauteur. Est-ce que tu sais quelque chose de moi que je ne sais pas? Non. Une infirmière entre dans la chambre. Pépé n'a pas bougé. Je vois à la tête qu'il fait et qu'il est déçu que j'interrompe ma lecture. D'un geste qui se veut affectueux, il me presse l'épaule. Sa maladresse me fait mal, au sens propre comme au figuré. L'infirmière remplace la poche vide d'une perfusion. Elle nous sourit et jette un coup d'œil au cahier bleu qui est grand ouvert sur mes genoux. Vous avez raison de lui faire la lecture, elle entend tout. Elle quitte la chambre. Pépé s'est assis dans un coin, les bras croisés. Il semble perdu dans ses pensées. En le regardant, je me demande pourquoi on tombe amoureux. Moi, qui passe mes journées à écouter des histoires, je suis bien placée pour savoir que l'amour ne supporte aucune explication.
« Continue ta lecture », me dit-il.
Juin 1951. Entre la gare de Milly et le café du Père Louis, Edna ne croise personne. Dans le village, un soleil de plomb fait taire la brûlure des rues. Tout est silence. Les arbres, les trottoirs, les murs. Les volets des façades sont fermés. La réverbération du soleil sur les pavés est aveuglante. Edna traverse la place de l'église en observant son ombre, s'étonnant presque d'être faite de chair et d'os. Personne en terrasse. La salle du café est vide. Il est 15h. Rien n'a changé depuis la dernière fois. La porte principale et les fenêtres sont grandes ouvertes. Personne. À croire que la sieste a touché toutes les âmes. Seul le bruit d'une machine à coudre, un ronronnement de chat. Elle est là, retranchée dans sa remise, dirigeant un morceau de tissu sous l'aiguille. Edna reste sur le pas de la porte. Il suffirait de faire 4 pas pour lui parler, ou 4 en arrière pour retourner d'où elle vient, sans rien dire. Une mouche lui frôle l'oreille. De la sueur coule entre ses narines et sa lèvre supérieure, dans l'empreinte de l'ange. Elle s'essuie du revers de la main en pensant à cette légende qui raconte que l'on saurait tout de sa vie avant de naître et qu'un ange poserait son doigt sur la bouche du bébé pour qu'il se taise, le marquant dans sa pulpe au-dessus de la lèvre. Si elle avait tout su, elle n'aurait pas laissé l'ange poser son doigt. Elle aurait tout simplement renoncé à cette vie. La machine à coudre s'est arrêtée. La chienne qu'elle a vue la dernière fois débarque comme un mirage. Elle halète, la tête baissée et les yeux mi-clos, vaincue par la chaleur. L'animal renifle vaguement Edna de loin, puis s'allonge sur le sol de tout son long, sans la lâcher du regard. Hélène apparaît. Elle porte une robe noire. Derrière le bar, elle fait couler de l'eau et s'asperge le visage. Quand elle aperçoit cette cliente debout, près de la porte, elle attache un tablier autour de ses hanches, en la saluant. Ses yeux se sont-ils agrandis depuis la dernière fois? Son visage semble dévoré par le bleu de ses yeux, comme celui de Lucien. « Qu'est-ce que je vous sers ?» Edna est toujours debout à l'entrée. « Je sais où est Lucien, » répond Edna. « Maintenant, il s'appelle Simon. » Edna n'avait pas prévu de dire ces 2 phrases. Elle voulait s'asseoir, prendre le temps. Le jeune serveur boiteux devait être là. Elle aurait pu observer, se fondre parmi les clients, attendre la fermeture, peut-être même la tombée de la nuit. Mais non. La chaleur qui s'est abattue sur le pays a fait qu'elles se retrouvent face à face, sans témoin. Hélène dévisage Edna, dont les paroles résonnent encore dans la pièce vide. Les bouteilles, les verres, les tasses, les tables, les chaises, le comptoir, les miroirs, la photo de Janet, le flipper se renvoient les mots comme une balle. Je sais où est Lucien maintenant, il s'appelle Simon. Hélène, muette, scrute les lèvres fines et rouges d'Edna. Voilà son adresse. Elle lui tend un morceau de papier. Elle n'a pas bougé. Elle est toujours debout, immobile, à l'entrée du café. Elle ne parvient pas à franchir une barrière invisible. Hélène s'approche d'Edna. Elle observe l'infirmière comme si elle allait disparaître d'une minute à l'autre. Elle prend le papier, le déplie et le regarde en faisant semblant de lire pendant quelques secondes. Jamais, au grand jamais, elle n'avouerait à cet inconnu qu'elle ne sait pas lire. Elle relève la tête et demande « Comment savez-vous que c'est lui ?»« J'ai reçu votre avis de recherche accompagné du portrait. » »« Mais c'était il y a longtemps ?» Edna baisse les yeux et la voit. Il a été grièvement blessé, mais il va mieux à présent. « Vous êtes sa femme ?» demande Hélène. « Oui. » Choquée, Hélène prend une chaise pour s'asseoir. « Où est-il ? » ?»« Chez nous, avec notre fille. » « Pourquoi êtes-vous venue ?» Edna ne répond pas. Elle quitte le bistrot et disparaît aussi vite qu'elle est apparue, avalée par la lumière crue du jour. Il se passe au moins une heure entre son départ et l'arrivée du petit Claude. Hélène, assise sur sa chaise, plantée au milieu du bistrot, serre le papier dans ses mains. La salle du café est toujours vide. À croire que dans le monde, plus personne n'a soif alors qu'il fait une chaleur à crever. Claude a du mal à comprendre ce qu'Hélène lui raconte. Une grande femme, très maigre, celle de Lucien, les cheveux noirs, qui s'appelle Simon, grièvement blessé, une petite fille, me dire qu'il n'est pas mort. La chaleur empêche Claude de penser, de comprendre les mots hachurés que sa patronne et amie débitent. Hélène finit par lui tendre un papier, qu'il lit à voix haute. Route des Anges, La Bervrac. Lucien ouvre la porte. Hélène ne se rappelait pas qu'il était aussi grand. Il a beaucoup changé. Il ressemble à un homme maintenant. Ils avaient presque le même âge tous les deux, et à présent, elle réalise qu'elle a l'air beaucoup plus jeune que lui. Ses cheveux ont foncé. Une profonde cicatrice lui barre le visage, de la tempe gauche à son lobe droit, en déformant son nez. Ses immenses yeux bleus la fixent. Il recule légèrement pour la laisser entrer, comme s'il l'attendait. Ses jambes ont du mal à la porter. Elle s'est bêtement faite belle, par vanité. Elle n'aurait jamais dû. Elle aurait dû savoir qu'il avait changé. Elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas se maquiller. Que ce n'est pas une fête qu'il s'apprête à vivre, mais l'enterrement de leur jeunesse. En pénétrant dans cette maison inconnue, où les portraits de Rose semblent se multiplier à l'infini, elle se demande s'il n'aurait pas mieux fait de mourir tous les deux le jour de l'arrestation. Partir avec Simon, sous les balles des boches, pour ne jamais vivre cet instant. On peut tout imaginer des cruautés de la guerre. Que son homme revienne mort, blessé, amputé, paralysé, fou, méchant, violent, alcoolique, jaloux, invivable, traumatisé, défiguré. Mais jamais on ne peut imaginer qu'on va le retrouver dans une autre maison, dans une autre vie, avec une autre femme. On se connaît. Lucien vient de prononcer ces trois mots. Elle ne saurait dire si c'est une question ou une affirmation. Sa voix s'est un peu voilée. Elle a du mal à croire que cette scène est réelle, qu'elle est face à Lucien, qu'il n'est jamais revenu parce qu'il a fait le choix d'une autre maison, d'une autre vie, d'une autre femme. Autour d'elle, il n'y a que les objets qu'il doit frôler ou utiliser chaque jour. Elle se fait l'effet d'une étrangère qui a trop longtemps attendu un inconnu. Oui, on se connaît. La mouette, c'est vous ? Elle est à moi. Il la dévore des yeux. Elle a le sentiment qu'il la caresse. Elle est en train de revivre l'été 36 sans qu'il se touche. Un été à l'envers, comme dans un cauchemar. « Comment tu m'as retrouvée ? » demande-t-il. « Je ne voulais pas venir. C'est un ami qui m'a obligée. » Il la regarde de haut en bas. Elle se force à sourire alors que chaque parcelle de son corps sanglote. Même la robe qu'elle porte, même ses chaussures neuves qui lui compriment les chevilles. Il fixe ses mains tremblantes qui s'accrochent à une petite valise bleue qu'elle finit par lui tendre. Voilà quelques affaires, des livres, des chaussures et les chemises que tu aimais porter. Ce sera peut-être démodé. Lucien prend la valise sans la lâcher du regard. Lucien est incapable de lui demander pardon, incapable de lui avouer qu'il ne se souvient pas d'elle. Comment a-t-il pu oublier cette femme ? Il avait le droit de perdre la mémoire, mais pas cette femme.